Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur Curiosité, la quotidienne d'actualité locale de Prune. C'est encore moi, Emmanuel, qui anime l'émission ce soir. C'est mercredi et demain c'est l'Ascension, c'est férié, une occasion de souffler qui est bienvenue. Ne tardons pas plus, le programme de Curiosité ce soir. On commence avec le grand entretien de Perrine qui reçoit Isabelle Durand-Dinger, la présidente de l'Ordre National des Sages-Femmes, qui a participé à l'écriture du livre « Notre santé en jeu ». Tout de suite après, on enchaînera avec la chronique de Morgane qui parlera du film « Les petits mouchoirs » de Guillaume Canet. Viendra ensuite le Zoom Actu. Chloé reçoit Abassia Hakem, l'adjointe à la maire de Nantes chargée des solidarités et de l'inclusion sociale. On abordera avec elle de la mise en place de l'épicerie sociale. On terminera sur notre artistique avec la chronique « Fermez les yeux, écoutez la radio » de Suvan. Et il est 18h01 sur Prune, place au grand entretien.
Curiosité. L'entretien.
6 mois pour un rendez-vous ORL. Des urgences qui débordent, des lits fermés, plus de pédiatres ou de gynécologues dans certains territoires, des services psychiatriques saturés et des EHPAD en souffrance. Tel est le constat que tout le monde peut faire au sujet du système de santé en France. Et pourtant, il a été classé en 2000 par l'OMS parmi les meilleurs au monde, notamment grâce au principe d'universalité de l'accès aux soins. Mais il vit depuis longtemps sur ses acquis de l'après-guerre et la pandémie est venue jeter une lumière crue sur cette réalité d'aujourd'hui. Il est à bout de souffle. Si le système tient encore, c'est parce que les soignantes et les soignants ont en commun l'amour du métier. Je n'ai pu m'empêcher de reprendre mot pour mot l'introduction du communiqué de presse annonçant le livre auquel ont participé plus de 40 personnalités du monde médical. Ce livre s'appelle « Notre santé est en jeu » et il nous délivre des propositions d'amélioration d'un système aujourd'hui fortement menacé. Pour nous parler de l'état de santé de la France en 2023, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Isabelle Durand-Dinger. Bonsoir et bienvenue dans les studios de Prune.
Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Perrine.
Isabelle Durand-Dinger, vous êtes présidente de l'Ordre National des Sages-Femmes et vous avez participé au même titre que 40 autres actrices et acteurs du monde médical au livre « Notre santé est en jeu » qui sera publié le 24 mai prochain dans lequel des solutions concrètes sont proposées. Nous avons donc de nombreux sujets à aborder ce soir, même si nous n'avons que 20 minutes. Pour situer tout d'abord votre fonction, pouvez-vous nous dire quelques mots concrets sur le métier de sage-femme? Et pourquoi, même si un film est récemment sorti là-dessus, on ne dit pas « sage-homme » lorsqu'il est exercé par un homme?
Vous avez tout dit, Perrine, effectivement, on ne dit pas « sage-homme ». Même quand il est exercé par un homme, on parle de « sage-femme » parce que c'est celui qui est au service de la santé des femmes. Et la sage-femme, c'est tout simplement la spécialiste, la référente médicale de la santé des femmes. On connaît le moment de la naissance, mais c'est aussi tout le volet avant, après la naissance et puis la santé gynécologique.
Ah voilà, vous parlez de santé gynécologique, on parlait du manque de gynécologues justement, et vous affirmez, il me semble, dans ce livre, que justement vous pouvez aussi pallier à ce manque de gynécologues, puisque vous-même, les sages-femmes, êtes tout à fait en mesure de faire le suivi gynécologique des femmes en bonne santé.
Oui, le problème c'est que la population ne le sait pas. Même les pouvoirs politiques, de temps en temps, l'oublient. Nous ne sommes pas seulement présentes au moment de la naissance, mais nous sommes présentes à tous les moments de la vie des femmes. Et s'il y a un événement pathologique qui apparaît, nous réorientons vers un médecin spécialiste. Notre compétence, c'est la santé des femmes à tous les moments de la vie, dès lors que la femme est en bonne santé.
Alors c'est important aussi de préciser que vous n'êtes pas des dames en rose avec les mains qui sentent le lait de toilette pour bébé, comme vous le disiez.
Ah, vous m'avez lu.
Je vous ai lu et j'ai beaucoup aimé aussi comment vous décriviez justement ce métier au moment des accouchements, parce que vous pouvez avoir affaire à un arc-en-ciel des émotions. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mais bien sûr, c'est vrai qu'on voit souvent ma profession comme étant exercée par une femme, habillée en rose et puis dans un environnement bien heureux. Et souvent on me dit, mais de toute façon Isabelle, tu fais le plus beau métier du monde. Je rappelle aussi que c'est le pire. C'est le pire parce que toutes les situations se rencontrent, je l'explique dans le livre, mais on peut rencontrer des femmes, des couples, des familles qui rencontrent une situation très heureuse avec la naissance d'un enfant en bonne santé. Et puis la salle juste à côté, on peut rencontrer une femme qui vit un drame, elle va perdre son enfant. Et puis à côté, une femme qui ne désire pas l'enfant qui va naître. Et puis à côté, peut-être une femme qui est victime de violences intrafamiliales. Toutes les situations sont possibles et envisageables. Donc non, ce n'est pas le plus beau métier du monde.
Et vous parlez même, vous utilisez même des mots, les cris, les pleurs, le sang, les matières fécales et l'urine. C'est important quand même de décrire concrètement.
Oui, c'est ça. Une salle de naissance, ça sent pas le lait de toilette pour nouveau-né. Ça sent effectivement tous les liquides biologiques.
Voilà qui est dit. Plus de confusion possible à présent sur le métier de sage-femme. Deuxième point, c'est quoi l'ordre national des sages-femmes ? Est-ce qu'il en existe un pour chaque métier de l'hôpital ?
Alors, il existe un ordre. D'abord, il n'y a pas seulement les métiers de la santé qui ont des ordres. Il y a un ordre pour les notaires, il y a un ordre pour les architectes. Mais on va parler des métiers de la santé. Effectivement, il y a des ordres pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les pédicures-podologues et les sages-femmes.
Entrons à présent dans le vif du sujet. Notre santé est en jeu. C'est le livre auquel vous avez participé. Il a été écrit par un binôme. Pouvez-vous nous dire qui en sont les auteurs ?
Alors les auteurs, c'est effectivement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ce sont des, ils sont journalistes et ils sont très impliqués dans la santé. Et je pense qu'ils sont extrêmement vigilants en se disant, au-delà du constat que la santé va mal, vous le disiez en introduction, la santé en France va extrêmement mal, mais il y a des solutions. Et toutes les personnes, toutes les organisations professionnelles, les ordres qui portent des solutions ont le sentiment de ne pas être entendus. Donc par le prisme de ce travail journalistique, c'est l'occasion enfin d'être entendu.
Alors sur le bandeau rouge qui entoure le livre, on peut lire « Pour sauver le système, écoutons le terrain ». Quelle a été la méthode d'élaboration de ce livre qui fait des remontées de terrain ? Ça a dû être un travail colossal.
Ah, je pense qu'il faudrait les interroger eux, mais pour les avoir rencontrés à mi-parcours, effectivement, ils étaient aussi, on va dire, terrassés. Je pense que je ne les trahis pas quand je dis terrassés aussi par les éléments qui leur remontaient du terrain. Et je me rappelle de la grande séquence d'émotions avec la journaliste lorsque j'ai évoqué...
Donc la journaliste Florence Boulanger.
Bien sûr, Florence a été extrêmement émue quand je lui parlais des situations périnatales que j'ai rencontrées. Et parfois, et en tout cas cet été, la volonté à un moment de dire « Ok, je pose ma blouse et j'arrête ».
Vous voulez dire que vous avez potentiellement côtoyé le burn-out ?
J'ai côtoyé surtout le sentiment, en fait, de ne pas être entendue et d'être face à un mur. Et ce que vivent les 24 000 sages-femmes de France, hein, si je ne cite que ma profession, d'avoir perdu du sens dans l'exercice du métier, de ne plus être en mesure d'assurer la sécurité physique et psychique des patientes.
Alors, on peut dire que pour ces entretiens qui ont été menés par ces deux journalistes, donc Florence Boulanger et David Guéquière, ils ont interviewé pas mal de professionnels, vous l'avez dit, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des sages-femmes, mais aussi des directeurs administratifs, des membres d'associations un peu partout en France qui délivraient de l'intérieur leurs propositions d'amélioration. Un mot peut-être sur ces quelques 40 contributeurs et contributrices qui se sont fait la voix de toute une population. Il y a dû y avoir des accords, des débats, des divergences de points de vue.
Non, chacun a été interviewé en fait dans son périmètre, c'est aussi ça qui est intéressant. Nous ne sommes pas superposables les uns aux autres et nous ne sommes pas transposables. C'est aussi ce qu'il faut défendre dans le système de santé. Un infirmier ne remplacera pas une pharmacienne, un médecin ne remplacera pas ou une sage-femme ne remplacera pas un médecin. C'est pas un principe de substitution, c'est un principe fondateur qui est quand même peu utilisé en France, qui est le principe de la graduation des soins. C'est typiquement cela que je décris. Une femme en bonne santé, elle a accès aux soins auprès d'une sage-femme, auprès d'un médecin généraliste ou auprès d'un gynécologue. À défaut de disponibilité de médecin généraliste ou du gynécologue, elle ne doit pas avoir peur. Elle a accès à la sage-femme, encore faut-il qu'elle le sache. Et dès lors que la situation se dégrade, la sage-femme oriente vers le médecin spécialiste. C'est l'idée du soin adéquat au bon endroit et au bon moment. Et ça, nous sommes en mesure de le réaliser.
Et c'est la coordination d'un bon travail d'équipe finalement.
Totalement.
Alors, si notre système de santé piétine, on s'en aperçoit assez vite lorsqu'on veut tout simplement prendre un rendez-vous chez un médecin. Mieux vaut ne pas être pressé. Quels autres constats flagrants avez-vous fait ?
Alors, dans ce que vous décrivez, qui est la crise du système de santé, nous décrivons l'ensemble de la profession de sage-femme, hein, avec tous ses représentants et l'ordre des sages-femmes, dénote, enfin, en tout cas, remarque et diagnostique un élément extrêmement criant, c'est que dans la fragilité du système de santé, les femmes sont les plus touchées. La périnatalité et la santé des femmes est négligée en France. Et cela depuis des années, voire des décennies.
Vous parlez notamment de maternité qui ferme aléatoirement dans le, C'est dans le livre.
C'est exactement cela, c'est que vous apprenez du jour au lendemain. Alors, c'est vrai pour les équipes soignantes, mais c'est aussi vrai pour les citoyennes et puis leurs familles, que vous vous présentez à une maternité pour laquelle vous souhaitiez être suivie et vous souhaitiez mettre votre enfant au monde, et elle va fermer du jour au lendemain. Peut-être pendant une semaine, peut-être plus longtemps, et vous serez réorienté à 45 km ou un peu plus en fonction du contexte.
Sans que personne n'en soit vraiment informé au préalable.
Peut-être sans que vous n'ayez les moyens de mettre le carburant dans votre véhicule pour vous rendre ailleurs.
De plus. Alors, pour revenir sur le classement de l'OMS, c'est la dernière question avant notre petite pause musicale. Le classement de l'OMS est notamment l'universalité de l'accès aux soins. J'ai découvert en préparant cet entretien que le ministère dont vous dépendez s'appelle aujourd'hui ministère de la Santé et de la Prévention, alors qu'il s'appelait encore il y a un an, avant le second mandat d'Emmanuel Macron, le ministère des Solidarités et de la Santé. Est-ce significatif pour vous ?
Je pense. Alors maintenant, nous avons deux ministères, parce que nous avons aussi le ministère des Territoires et des Professions de Santé. Donc, ce ministère historique a été scindé en deux ministères. Nous avons deux interlocuteurs. Sans doute, c'est significatif. En tout cas, ce que nous dénotons et ce que nous dénonçons aussi, c'est l'absence de caractère préventif de la santé en France. Nous soignons, mais nous ne préservons pas la bonne santé.
Donc, il y a peut-être un risque d'être soigné aussi en fonction de son réseau.
C'est possible. Plus le territoire de santé est inégal et plus l'accès aux soins est inégal et met de côté d'ailleurs les inégalités. Met en avant les inégalités sociales et territoriales dont je rappelle que les premières victimes sont les femmes et les enfants.
Le temps passe vite, c'est déjà le milieu de notre entretien et c'est donc l'heure de notre pause musicale. Je vous laisse apprécier les Ofris Maracas avec le titre « Sur quel pied danser ?» L'art de dénoncer un système sur une musique guillerette. On se retrouve tout de suite après pour parler des mesures concrètes pour notre santé avec notre invitée du jour, Isabelle Derendinger, qui représente l'Ordre National des Sages-Femmes. Restez à l'écoute.
Plein de pousses sur ma terre, même les oiseaux ont crevé. Plus assez de vers de terre, je sais plus sur quel pied danser. Plein de pousses sur ma terre, mon sang toi même stériliser les pommes de terre. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport me poussait, puis je suis pas aux têtes de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la SAFER fait ses affaires. Ils s'en vont m'exproprier pour construire un parc center. Danser, danser, sur quel pied, quand dans l'assiette c'est la lumière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui ne veut pas s'en faire. Danser, danser. Sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai 400 depuis hier, puis j'ai jamais su danser, mais je danse parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser. Sur quel pied, pied, bu le poisson dans l'assiette.
Danser, danser sur quatre pieds,
bu la saison sur la planète.
Danser, danser.
Tourne à l'envers, vous venez d'écouter Sur quel pied danser des Oufris Maracas. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Derendinger, présidente de l'Ordre National des Sages-Femmes, qui, à ce titre, a participé à l'élaboration du livre Notre santé est en jeu, qui paraîtra la semaine prochaine. Pour cette deuxième partie d'entretien, dites-nous sur quel pied danser, Isabelle, puisque 20 solutions concrètes sont détaillées dans ce livre pour réinventer un système de santé aujourd'hui fortement menacé. Quelles mesures pourraient être mises en œuvre immédiatement ?
22.
Ah, magnifique.
22 concernant la santé des femmes. Je vais m'en expliquer puisque nous avons travaillé une proposition de loi avec l'ensemble des instances représentatives de la profession. Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est que nous voulons et nous proposons dans notre proposition de loi d'améliorer la prévention, par exemple. En commençant par de l'éducation à la vie affective et sexuelle qui manque cruellement dans un établissement collège et lycée, qui manque pour les citoyennes et qui serait aussi tout à fait fort utile aussi pour les jeunes garçons. Donc ça, c'est un premier élément. Je vous donne quelques exemples dans cette proposition de loi. Je ne vais pas vous citer les 22 articles. Développer aussi les actions de prévention en termes de vaccination. Nous ne sommes pas bons en France, et notamment sur la vaccination HPV, qui, on le sait, a des conséquences dramatiques.
HPV, s'il vous plaît.
Papillomavirus, à human papillomavirus, qui peut entraîner des cancers de la sphère ORL ou des organes génitaux en fonction des pratiques sexuelles qu'on a, qui a été éradiqué dans certains pays du monde, comme l'Australie, et en France, on est toujours très parcimonieux. Donc là aussi, on propose un coup d'accélérateur.
Il paraît qu'on peut vacciner les hommes et les femmes, d'ailleurs.
Bien sûr, d'ailleurs, c'est une préconisation française qui est quasiment invisible actuellement. Autre élément, c'est qu'on propose une consultation dédiée aux femmes, pas forcément au même moment d'ailleurs que celle proposée par le ministère de la Santé, qui soit une première consultation chez la jeune fille pour l'éducation à la vie affective et sexuelle, une deuxième consultation à l'âge où on peut avoir un enfant, qu'on le désire ou pas d'ailleurs, ou qu'on souhaite en avoir un et qu'on ne puisse pas en avoir. Et puis le troisième élément, c'est parce qu'on dit toujours que oui, c'est un problème de santé et que les femmes sont malades quand elles sont ménopausées. Ben non, c'est un état physiologique. Ce n'est pas être en mauvaise santé qu'avoir que traverser la période de la ménopause, tout comme la puberté. Hein. Mais pour autant, ça serait bien de pouvoir permettre aux femmes d'avoir une consultation dédiée à ce moment-là. Et puis on propose plein d'autres choses, d'accompagner par le biais la possibilité d'un arrêt de travail toutes les femmes qui souffrent de la perte d'un enfant, qu'il s'agisse d'une fausse couche précoce, tardive, d'une interruption médicale de grossesse. Là aussi, ces femmes sont un peu négligées. Donc voilà les différents axes que vous pouvez retrouver dans les articles qui sont consultables sur le site du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Et puis le deuxième volet, c'est un coup d'accélérateur pour ma profession. C'est une profession qui, historiquement, est médicale. Pour autant, on nous assimile souvent à des professionnels paramédicales. Vous savez, les dames en rose. Donc en fait, nous voulons une vraie reconnaissance médicale. Certes, la rémunération, mais pas seulement. C'est pas qu'un problème de rémunération.
Oui, la reconnaissance ne passe pas que par
bien
la rémunération.
Bien sûr, c'est notamment la place dans les instances de gouvernance hospitalière, c'est l'accès à la formation continue, c'est tous ces éléments-là. Et puis surtout, enfin, dernier élément essentiel, c'est qu'on ait les personnes quantitativement et qualitativement au bon endroit, au bon moment. Un exemple concret, les textes juridiques qui définissent les effectifs dans les maternités datent de 1998. Depuis 1998.
Ça fait 25 ans.
Oui. De nombreuses maternités ont fermé. Rien n'a été révisé. Si je vous parle de la protection maternelle et infantile que tout le monde connaît, la PMI, elle est encore plus négligée puisque les textes sont antérieurs à 1998.
Tout va bien. Alors justement, les journalistes qui ont écrit ce livre avec votre collaboration ont souligné votre cran. Vous dénoncez un manque de courage politique sur certaines décisions. Est-ce qu'il y a d'autres solutions concrètes qui pourraient voir la vie sur du plus long terme et qui demanderaient justement un courage politique ?
Oui, ce courage politique, c'est un exemple. C'est en France, actuellement, les femmes sont entravées dans leur libre choix de choisir leur établissement pour... C'est la loi Kouchner hein, de 2002 qui définit nos droits absolus, pour choisir nos professionnels et les établissements dans lesquels on est accueilli. Et ben, c'est un droit qui est refusé aux femmes qui vont mettre un enfant au monde en France. Pourquoi ? Parce que 2/3 des maternités ont fermé en 40 ans. Là, il y en a encore quelques-unes qui menacent de fermer, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Que les maisons de naissance, elles sont au nombre de 8. C'est un espace physiologique de naissance qui est seulement, j'y mets presque une valeur péjorative, qui est dirigée par une sage-femme. Eh bien, il y en a 8, il devrait y en avoir 20 depuis le début de l'année, il y en a toujours 8. Ça, c'est un manque de courage. Et puis, un autre élément, c'est qu'il y a des femmes qui veulent faire le choix d'accoucher de façon accompagnée à domicile par une sage-femme. Aucun pouvoir politique actuellement n'a souhaité se pencher sur ce dossier, là aussi depuis des décennies. C'est ça le courage, c'est de regarder la vérité en face, d'explorer les choix des femmes, de les respecter et de leur permettre de satisfaire leurs choix.
Puisque vous parlez de pouvoir politique, comment espérez-vous qu'elle soit, que vos mesures et votre livre soient reçus par notre ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun ?
Bon, je doute fort qu'il m'appelle ce soir, mais en tout cas, c'est un signal. De toute façon, il a conclu la semaine passée le Conseil de la Refondation en Santé en disant qu'il allait particulièrement s'intéresser à la situation des sages-femmes. Mon portable, il est ouvert 24 heures sur 24, j'attends son appel.
Avis, Monsieur François Braun, on vous attend au tournant. Alors, que pensez-vous de la rentabilité demandée à l'hôpital ? Est-il légitime de considérer la santé comme une valeur marchande ?
Cette rentabilité, elle ne se pose plus maintenant, puisqu'elle elle a été mise en œuvre une fois qu'on a changé le système de tarification à l'hôpital, qu'on est passé d'une dotation globale, qui était sans doute tout à fait inégalitaire, à une tarification à l'activité. On a créé effectivement des structures hospitalières qui ont la notion qu'il faut toujours faire plus, plus, plus. Et ce système de plus, 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 effectivement, est incohérent. C'est aussi pour ça que tous les professionnels disent actuellement qu'on perd du sens. Une logique comptable, lorsqu'on prend soin des gens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la sécurité nationale, ce n'est pas possible pour la santé, ce n'est pas possible pour l'éducation nationale. C'est un bien commun, et ce bien commun, il faut vraiment réfléchir et que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Dans la santé et la santé des femmes, moi ce que j'attends, c'est que les pouvoirs politiques, les instances représentatives de la profession et les citoyennes soient autour de la table pour prendre des décisions collectives, raisonnées, mais en faveur de la santé des femmes.
Oui, parce qu'en plus, cette manière de fonctionner, ça peut créer des crises de vocation. Il y a des crises de vocation parmi les médecins. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez failli poser votre blouse l'été dernier. Parmi les infirmiers, il y en a 30%, je crois, qui réfléchissent à abandonner aussi leur métier.
C'est exactement cela. Alors, dans la profession, je pense que de sage-femme, c'est encore plus dramatique, hein, parce que dans la crise des crises, il y a la crise des sages-femmes, profession de femmes au service des femmes, qui est totalement invisibilisée depuis des décennies. Mais si je donne l'exemple de cette année, c'est pour ça que urgence à prendre en compte la situation sanitaire française, c'est qu'actuellement, ce qui est tout à fait inédit, 20% des places sont vacantes dans les écoles de sage-femme, 37% en Île-de-France, et cela depuis la rentrée de septembre 2022, ce qui montre à quel point la perte de sens est ancrée là depuis quelques mois de façon extrêmement aiguë.
Donc vous avez parlé des sages-femmes. Est-ce qu'on peut parler aussi de la population qui vieillit ? Parce qu'une population qui vieillit et qui a besoin de soins de plus en plus nombreux, c'est ce qui est appelé dans le livre « l'éléphant dans la pièce ». L'espérance de vie augmente, c'est ce qu'on ne cesse d'entendre, mais vivre âgé pour être grabataire, est-ce que c'est une solution ?
Alors je ne suis pas gérontologue, donc c'est un peu difficile de me prononcer. Ce que je sais, c'est que par contre... Penser à la santé physique, c'est une bonne chose. Penser à la santé mentale, c'est aussi essentiel. La santé mentale des citoyens, elle est très négligée en France. Je vais vous donner un exemple concret. Encore une fois, je ne parle que de ce que je maîtrise bien, qui est mon métier, et du coup, les citoyennes que je rencontre. En France, on a une singularité pour laquelle on peut rougir. La deuxième cause de mortalité maternelle dans le postpartum en France, c'est le suicide. C'est une singularité française qui montre à quel point on ne prend pas en charge la santé mentale des patientes qui vont avoir ou qui ont eu un enfant.
C'est une urgence. C'est un coup de massue là que vous venez de me donner.
Je le vois. Ouais. Dont 50%, selon les scientifiques, serait évitable. Vous voyez, on peut trouver la solution. Elle est présente, la solution, mettons-la en œuvre. C'est ça le pouvoir politique. C'est aujourd'hui, mettons en œuvre les solutions pour créer les conditions citoyennes favorables et puis notre société de demain. Mon métier, c'est aussi de contribuer à la construction de la société. Donc je veux le faire de façon propre et efficace.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Isabelle Derain. deux rangs d'ingés, je ne l'avais pas écorché jusque-là, deux rangs d'ingés,
d'avoir c'est pas grave, répondu c'était pas l'essentiel.
À mes questions sur Prune ce soir et continuer à avoir du cran. Merci. On a besoin de gens comme vous.
Merci à tous et bonsoir à tous.
Je rappelle que vous êtes présidente de l'Ordre national des sages-femmes et avez participé au même titre que 40 personnalités du monde médical au livre Notre santé est en jeu qui sera publié le 24 mai prochain dans lequel des solutions concrètes sont proposées, je l'ai bien répété. Chères auditrices et chers auditeurs, si votre santé et celle des autres vous tient à cœur, activez vos synapses, ayez l'oreille aiguisée et ne vous laissez plus berner par de beaux discours. Battez-vous en solidarité et aux côtés des quelques 3 millions de personnes qui prennent soin de notre santé au quotidien. C'est de notre santé à toutes et tous dont il s'agit. N'attendez pas d'être au pied du mur pour vous en soucier. Et puis, dès mercredi prochain, le 24 mai, date de sa sortie en librairie, courez, c'est bon pour la santé, pour acheter le livre « Notre santé est en jeu », co-écrit par Florence Boulanger et David Guéquière aux éditions Vuibert. Et ce soir, à l'apéritif avec vos proches, lorsque vous trinquerez et que vous direz « santé », ce mot devenu banal prendra peut-être un autre sens, plus profond. Je vous laisse y réfléchir. Santé à toutes et tous.
Merci beaucoup Isabelle de Rendinger pour cet échange enrichissant et merci aussi à Perrine. Maintenant, on va écouter Morgane. Elle nous parle d'un film de Guillaume Canet.
Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Et on se retrouve après quasiment un mois sans chronique de Quatrième Mur, je dois vous avouer que ça m'avait manqué. Et comme Curiosité touche malheureusement bientôt à sa fin, je voulais vous parler d'un film que je considère, enfin pour moi en tout cas dans ma culture, bah culte. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu, mais si c'est pas le cas, vous devez absolument le voir. Déjà, c'est simple, vous n'avez pas d'excuses vu que Les Petits Mouchoirs est dispo sur Netflix. D'ailleurs, ce titre, c'est carrément un euphémisme parce que si vous êtes des grands sensibles comme moi, c'est pas des petits mouchoirs que vous devrez sortir, mais à peu près 4 boîtes de Kleenex entières que vous allez vous enfiler. Alors, le résumé est simple. Après l'accident grave d'un ami, une bande de copains part en vacances pendant 2 semaines, comme chaque été. Et comme chaque été, les mensonges et les non-dits sont de sortie. Mais peut-être que cette fois, ils lèveront justement les petits mouchoirs qu'ils ont posés dessus. Alors, c'est vrai que Les Petits Mouchoirs, c'est un film que j'ai vu il y a vraiment très très longtemps pour la première fois. Je pense que j'étais peut-être même un peu trop jeune pour le voir à cette époque, mais je me souviens que ma maman m'avait dit un après-midi, alors que je savais absolument pas quoi regarder, « Regarde celui-là, il est vraiment cool ». Et je pense qu'il y a 10 ans, j'avais vraiment pas compris toutes ces subtilités dans l'écriture du film et entre les relations des personnages. Mais je l'ai revu il y a quelques jours et certaines choses ont pris une nouvelle dimension. Comme ces petits mouchoirs que l'on pose pour ne pas blesser telle ou telle personne, parce que c'est notre ami, parce que les mensonges sont là depuis si longtemps qu'on n'ose pas dire la vérité. Et puis d'un seul coup, il suffit d'un faux pas pour que tout vrille. Et je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce film parce qu'on a tous été dans une de ces situations un jour ou l'autre. On a tous déjà eu cette pote hyper relou qui veut manger que du bio, ou ce mec casse-pied qui se lève aux aurores pour profiter un max de ses vacances, ou alors ces personnes qui te forcent à aller courir parce que c'est t'imagines pas comment ça vide la tête. Mais qu'est-ce qu'on fait tous dans ces cas-là, même si on est hyper saoulé? Eh ben on se tait, parce que c'est nos amis malgré tout, et puis c'est plus confortable de vivre dans le déni plutôt que de se prendre la tête. Alors je vais pas vous dire que c'est un film hyper joyeux, mais c'est pas non plus un film ultra déprimant. En même temps, c'est le principe d'une comédie dramatique. Mais normalement, vous allez rire, et vous allez pleurer. Finalement, c'est la représentation de toute amitié ce film. On peut pleurer de rire, de joie ou de tristesse avec des amis. Et ce film nous fait passer par toutes ces émotions justement. On se sent vraiment inclus dans cette bande de potes. Et ça passe aussi par la façon dont c'est filmé. 2 caméras, en fait, ont été utilisées pour laisser champ libre aux acteurs. Alors, ça veut dire quoi, concrètement? Tout simplement que les 2 caméras permettent d'avoir de plus grands angles et donc plus de possibilités de mouvement pour les acteurs. C'est-à-dire que quand ils devaient se déplacer pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, par exemple, ils n'étaient jamais hors champ et donc en dehors de ce que la caméra filme. On pouvait toujours les voir et ça permet de donner une forte impression de réalisme. Le spectateur est donc immergé en permanence. Alors c'est bien évidemment aussi les acteurs qui rendent ce film aussi unique. Clairement, Guillaume Canet, le réalisateur, s'est entouré des meilleurs acteurs français à l'époque, ou enfin peut-être toujours aujourd'hui, ça dépend desquels. Gilles Lellouche, l'un de mes chouchous, comme vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé des milliers de fois dans cette chronique. Marion Cotillard, Laurent Lafitte, qui joue également si bien qu'on a un peu envie de le claquer au bout de 2 minutes à l'écran. François Cluzet, qui offre des scènes absolument cultes avec ses manies. Ou encore Valérie Bonneton, la fameuse amie bio qui parle à ses graineries. C'est tous ces petits détails qui font que ce film, vous devez absolument le voir. Bon, alors il dure 2h30, donc préparez-vous quand même. Et on se quitte sur l'une des musiques du film et l'une de mes chansons préférées de David Bowie, Moonage Daydream. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll.
Eh ben, merci beaucoup Morgane pour ta chronique Le Quatrième Mur. On continue avec la deuxième interview de la soirée, c'est le Zoom Actu avec Chloé et Abacia Hakem.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonsoir Abacia Hakem.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe à la mairie de Nantes en charge des solidarités et de l'inclusion sociale et vous venez aujourd'hui nous parler du côté solidaire des épiceries Nous Anti-Gaspi. Créée en 2018 à Mélès, près de Rennes, la chaîne Nous Anti-Gaspi compte aujourd'hui 27 magasins, dont une dizaine à Paris. Forte de son succès, l'enseigne ouvrait fin mars une seconde boutique à Nantes dont vous avez participé à la mise en place en tant qu'élu et dans le cadre des Assises des Nouvelles Solidarités, un débat citoyen qui s'est terminé à l'été 2022. L'anti-gaspillage convainc de plus en plus de monde et les solutions se multiplient, des frigos solidaires aux épiceries, en passant par les paniers Too Good To Go. Au départ, les bienfaits mis en avant sont avant tout écologiques, mais les prix cassés font de l'anti-gaspillage une initiative aussi solidaire. Et alors qu'on observe une croissance de ceux qu'on nomme les nouveaux pauvres, l'anti-gaspillage devient une solution parallèle aux associations et banques alimentaires qui se retrouvent surchargées. Je vous propose de commencer cet entretien en présentant davantage Nous Anti-Gaspi et notamment son fonctionnement. Pouvez-vous nous expliquer quels produits sont vendus, d'où ils viennent et à quel prix sont-ils vendus, puisque du coup, ce qui est mis en avant dans l'anti-gaspillage, ce sont aussi les prix cassés.
Oui, peut-être, bonsoir à tous. Peut-être démarrer par les trois objectifs qui sont portés par cette épicerie sociale, les mille fleurs du colibri. Je donne le nom parce que c'est à la fois un nom poétique, mais c'est un nom qui a du sens, qui a été choisi par les habitants. Et puisqu'il existait un lieu d'accueil qui s'appelle déjà le Colibri, et les mille fleurs du Colibri, en fait, sont nées de l'idée que c'est un oiseau pollinisateur et que évidemment il va sur mille fleurs au total. Et ça nous semblait important parce que ça contribue à augmenter et à participer en fait aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes. Alors trois objectifs, proposer des denrées à bas coût, vous l'avez dit. Le deuxième objectif, c'est favoriser l'inclusion sociale et la création et le maintien du lien social. Et le troisième, c'est lutter contre les inégalités sociales et de santé. C'est extrêmement important parce que il suffit pas de se nourrir simplement. Bien sûr, on répond à ce premier besoin, se nourrir, mais ça va au-delà. C'est amener les gens à avoir une meilleure alimentation, en tous les cas une alimentation de qualité qui vient évidemment leur permettre aussi d'avoir un épanouissement personnel et de pouvoir accéder à des produits de qualité. Et donc c'est dans cet esprit-là que cette épicerie solidaire a été ouverte en fin d'année, inaugurée récemment. Et aujourd'hui, en tout état de cause, elle répond véritablement à un besoin puisqu'il y a énormément de personnes qui y passent.
Donc ces produits, ce sont des invendus de grands magasins, entre autres, et le magasin a aussi sa propre production, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des produits
C'est-à-dire que, évidemment, c'est des denrées qui sont fournies à l'occasion de ce qu'on appelle ramasse. On va dans les magasins récupérer les invendus, mais c'est également des denrées que l'on peut récupérer à la banque alimentaire. Ou sur d'autres structures. Et puis, surtout, si vous voulez, c'est que... alors, quand vous dites leur propre denrées fournies, c'est avec les jardins nourriciers, donc les jardins partagés, où les habitants peuvent cultiver et récolter leurs propres légumes et puis, du coup, les mettre à disposition. Mais ce qui est à retenir surtout, me semble-t-il, dans cette épicerie solidaire, c'est plutôt la manière dont on accompagne les gens.
c'est quasi un support, la distribution alimentaire. C'est-à-dire qu'on fait une évaluation sociale avec ces personnes. Ça peut être des personnes qui sont inscrites dans la précarité depuis un petit moment, mais ça peut être aussi des personnes à qui ça leur tombe dessus, comme ça, tout à fait par hasard, avec des profils très différents. Ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des retraités, ça peut être des jeunes, et en particulier des jeunes étudiants aussi. Et donc l'idée, c'est de les accompagner et de voir quels sont leurs besoins. Donc c'est des denrées, moyennant une participation financière, un calcul qui est fait, et le CCAS, en fait, prend la différence en charge quand les personnes ne peuvent pas assumer directement.
Cette nouvelle épicerie située du coup rue Mercœur, près de la place de Bretagne, s'ouvre à l'initiative d'une demande des habitants du quartier. Pourquoi souhaitait-il ce magasin? Quels avantages ont-ils mis en avant?
Oui. Alors, je crois qu'il y a une petite erreur sur le lieu. Cette épicerie, en fait, elle est sur Bottières-Pinsec. Je ne sais pas si on parle de la même chose pour le coup. Cette épicerie, elle est installée Bottières-Pinsec dans un quartier d'habitat social, en ce qu'on appelle le quartier politique de la ville. Et voilà. Donc, mais ça rejoint un peu celle dont vous parliez, installée rue Mercœur, sauf que la démarche, elle est totalement différente, en fait, dans l'approche. Nous, on part du citoyen, de la personne qui vient pour, évidemment, avoir des denrées alimentaires, et on l'accompagne vers quelque chose de qualité. Ce dont vous parliez, c'est autre chose. C'est la fourniture à certains endroits, et puis voilà. Donc, si vous permettez, je vais continuer sur peut-être les mille fleurs du colibri.
Oui, bien sûr, oui.
Je pense que c'est important.
Ça restait quand même une demande, du coup, des habitants.
Tout à fait. Ça reste une demande des habitants.
Et du coup, pourquoi souhaitait-il...
Eh bien, c'est tout un travail qui avait été mené avant la crise sanitaire. Donc, un travail de concertation avec plusieurs associations et des habitants. Et l'idée, c'était de se dire, dans ce lieu-là, on peut aussi avoir un lieu où la question de la distribution alimentaire peut être prise en compte, parce que c'est un bon moyen, d'avoir des contacts avec les habitants. Et surtout, ça permet d'amener les habitants vers des ateliers de cuisine pour cuisiner des légumes, des ingrédients qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre et découvrir d'autres formes d'alimentation ou d'autres formes d'ateliers cuisine. Et donc, on est un peu dans cet esprit-là.
Donc, depuis septembre 2022, les associations solidaires observent une demande d'aide importante et un nombre record de bénéficiaires. C'est une nouvelle population qui se tourne vers les associations, des profils que l'on n'avait pas l'habitude de voir, comme vous le disiez tout à l'heure, des étudiants par exemple. Comment peut-on expliquer ce boom de personnes qui basculent dans la pauvreté, l'inflation qui dure depuis plusieurs mois et s'élève en avril à 5,9%, on est forcément pour quelque chose, mais la France, elle a connu d'autres crises économiques dans le passé. Alors,
tout simplement parce que je crois que la crise sanitaire a été suivie d'une crise sociale assez forte, en fait. Et que ça a mis sur le bas-côté une catégorie de population que l'on n'avait pas l'habitude forcément de toucher. Les gens arrivaient à s'en sortir, je pense, ce qu'on appelait les travailleurs pauvres. Voilà. Et donc, évidemment, ça s'est accentué et on a retrouvé des profils, comme vous venez de le dire, notamment, je vous disais, de familles monoparentales qui se sont retrouvées dans des situations très difficiles, de retraités avec des tout petits revenus, des toutes petites retraites, et donc qui ne peuvent pas, évidemment, accéder à certains produits. Et vous avez raison de le rappeler, la question de l'inflation est venue accentuer cette difficulté-là et qu'on ressent encore aujourd'hui. Et puis, vous avez parlé très justement des jeunes et en particulier des étudiants, puisque cette période de crise sanitaire et de crise sociale a fait que des étudiants qui pouvaient avoir des petits boulots pouvaient contribuer en fait à leur alimentation, en tous les cas à leur vie quotidienne, et ça s'est perdu, et donc du coup se sont retrouvés dans des situations de précarité assez fortes. Et ce qu'on a pu constater en tous les cas, et ce qui est rassurant en tous les cas, c'est la mobilisation citoyenne qui s'est s'est faite autour de ça. Et beaucoup d'associations sur notre territoire participent à la distribution d'aide alimentaire. Et cette épicerie sociale, en tous les cas, et celle dont vous parliez tout à l'heure, contribue à avoir un tableau complémentaire, en tous les cas, de l'offre de distribution alimentaire.
En janvier, vous signez avec d'autres élus une lettre adressée à Emmanuel Macron pour lui demander d'être, je cite, « à la hauteur de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes collectivement confrontés ». 4 mois plus tard, rapidement, avez-vous le sentiment d'être entendu ? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ?
Alors, il y a eu, on ne peut pas nier qu'il y a eu des améliorations, en tous les cas des propositions. Hein, le panier anti-inflation, par exemple, qui a été mis en place notamment par des grands distributeurs. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas directement le gouvernement qui était à l'initiative de ça pour avoir un égal accès, en tous les cas, à un panier anti-inflation pour tous. Et le gouvernement, la Première ministre, vient de lancer un appel à projet sur un fonds d'aide alimentaire de plus de 60 millions d'euros. Je ne sais pas encore comment les choses vont se faire, parce que c'est un appel à projet, donc ça veut dire que les associations doivent déposer des projets. Mais en tout état de cause, je considère aujourd'hui que les collectivités sont en première ligne, et les CCAS, les premiers, sont la première porte que poussent les personnes en difficulté aujourd'hui, que ce soit pour des problèmes de santé, que ce soit pour des problèmes de précarité financière et pour des problèmes de précarité alimentaire. Et c'est effectivement les CCAS qui accompagnent beaucoup les associations aujourd'hui, qu'elles soient de grandes fédérations, hein, je pense au Secours Populaire, au Resto du Cœur ou aux banques alimentaires, mais nous avons énormément d'associations sur nos territoires qui ont des tonnes de trésors pour essayer de trouver des solutions et accompagner les personnes en difficulté.
C'est déjà la fin de notre entretien. Je vous remercie, Abbassi Hakem.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes donc adjointe à la mairie de Nantes en charge des solidarités et de l'inclusion sociale et vous avez participé à la mise en place de l'épicerie solidaire 1000 Colibris dans le quartier de la Bottière.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abbassi Hakem, d'avoir pris de votre temps et merci à Chloé. Maintenant, petite pause musicale. On écoute Together Again de Hélène May. C'était Together Again de Hélène May. On termine l'émission avec la chronique Fermez les yeux, écoutez la photo de Suvan.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Au loin, on voit l'horizon sur la mer. Un peu moins loin, mais au dernier plan, toujours, cachant un peu cet horizon, on voit une jetée qui part de la côte à gauche et va vers la mer à droite. Si on regarde bien, on doit voir quelques silhouettes toutes petites sur cette estacade. Sur la côte, des pins, comme une petite forêt, quelques rochers aussi, entre le sable et les arbres. Le ciel est totalement dégagé, et sur la plage, c'est marée basse. Au bord de l'eau, le sable est foncé parce qu'humide, et on distingue sur les rochers et la jetée le niveau moyen de la mer à marée haute, entre les parties plus souvent immergées et celles rarement ou jamais immergées. Cette photo en paysage n'est pas droite, elle est inclinée de 15-20 degrés. Si bien que si l'on prolongeait l'horizon à gauche à travers les rochers et la plage, il sortirait du cadre à mi-hauteur, tandis qu'à droite, il sort environ au tiers ou quart inférieur de la photo. La plage fait un arc de cercle et prend toute la largeur de la photo au premier plan. À ce premier plan, on voit aussi quelques rochers au milieu de la plage. Sur l'un d'eux, au milieu de la photo, un enfant, cheveux bruns, avec une veste sans manches, orange, main dans les poches, penché et accoudé au rocher. Sur sa droite, un peu derrière son épaule, une femme avec une veste orange à motif noir et blanc, cheveux bruns, mi-longs, légèrement ondulés par le vent. En fait, c'est bien qu'une seule personne qui prend appui avec son bassin sur le rocher. C'est un adulte, main dans les poches, d'une même veste sans manches orange, à la même taille enfant. Elle paraît petite, mais pas tant que ça non plus. À sa gauche, dans le coin inférieur droit de la photo, la même veste orange que la femme, mais comme abandonné sur un rocher. Ah, et les cheveux ondulés par le vent aussi. Par contre, il n'a plus les cheveux bruns, mais verts. Je dis « il n'a plus » parce que sur les deux photos, c'est moi, au même endroit, à quelques mètres près, mais à 30 ans d'écart. La première photo, donc, elle date de février-mars 92 ou 93. L'autre, à la même période, mai de 2023. Sur la plus ancienne, je pose avec ma mère, sur cette plage, pas très loin de Nantes, donc avec une estacade en bois, pour celles qui reconnaîtront. L'appareil est posé sur un rocher avec le retardateur. Sur la seconde, tout pareil, mais en fait, je suis seul. Comme je l'ai déjà évoqué, ma mère est décédée l'année dernière, et quand j'ai commencé à réunir des photos pour constituer un diaporama de sa vie pour ses obsèques, je me suis plongé dans pas mal d'albums photos, physiques ou digitaux, et je suis retombé sur la première photo dont j'ai décrit. Il y a quelques mois, années, j'ai fait une série, c'était pendant le confinement, j'ai fait une série d'une quarantaine de photos d'autoportraits, plus ou moins décalés, un par jour, jusqu'à ce que je n'ai plus l'idée du confinement. C'était un moyen pour moi de ne pas arrêter de faire de la photo pendant cette assignation à résidence. Ça a aussi été une occasion de faire autre chose photographiquement, même si j'en avais pas vraiment pris conscience. Me mettre en scène et me montrer au public, ce que je n'aime pas vraiment. Et puis j'y ai pris goût. Pas à me mettre en avant ou me montrer, mais à construire une image, à construire une mise en scène. Attendre d'avoir la bonne lumière, préparer l'endroit, installer le matériel, trouver la bonne focale, cadrer, se préparer et puis shooter, regarder le résultat. Si on est au numérique, réajuster et recommencer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de conforme à l'idée de départ. Conforme dans le propos, mais pas nécessairement dans la forme. D'ailleurs, parfois pendant la préparation de la photo viennent de nouvelles idées pour alimenter la photo ou l'épurer. C'est assez ludique. Du coup, plongé dans les albums souvenirs autour de ma mère, m'est venue l'idée de plusieurs séries photos, dont une engagée il y a quelques mois par ce premier cliché sur la plage. Refaire de manière assez fidèle des photos de ma mère et moi, mais du coup, seule. Mettre un peu de jeu dans ce processus de deuil, donc m'amuser à refaire des autoportraits et essayer d'en tirer une partie de plaisir. Une part de plaisir, et de ne pas que subir le deuil, finalement. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Suvan, pour cette chronique émouvante. Et on finit sur une petite chanson. C'est Karma de Danitza. Please, 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 Lord, I just wanna feel, I just wanna feel, oh, please, 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 Lord, I don't wanna. Hold me down.
Now it's been a while, so I ain't got the time. Cause even if you block one blessing, please know there is a million waiting. I sit and watch the show and then I fly away. Something when I'm the one providing, I swear the hustle is real. I see them try to stop the ride, give them a fight. You got me fucked up, you and your red eyes. You giving bad vibes. I want you gone now, even if I found out who's the bad guy. I know myself, I won't do the same again.
Et ben c'était Karma de Danitza. Et maintenant, ben, malheureusement, Curiosité, c'est terminé pour ce soir. Demain, c'est férié. Donc, il n'y aura pas d'émission. Mais vendredi, on sera là parce qu'il n'y a pas de pont chez Prune. Donc, vous pourrez vendredi nous écouter à la maison ou en balade ou en train du travail pour ceux qui seront comme nous. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Et on vous laisse avec le Labo des Savoirs, l'émission scientifique qui active. Créatif des synapses. Bonne soirée et restez à l'écoute sur Prune.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.